Une petite question, enfin deux petites questions qui sont reliées pour Anna Kiyomo et qui sont sans doute liées au temps de la communication. On n'a jamais le temps de bien décrire tout ce qu'on pourrait décrire. La première, c'est est-ce que vous pourriez revenir brièvement sur ce qui se passe dans son système ? Vous l'avez beaucoup décrit comme dispositif, mais du coup, les relations qui se tissent dans ces moments-là, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Et ce que je n'ai pas saisi non plus, mais sans doute à cause du temps de la communication, c'est comment vous passez de ces moments-là à des questions d'ambiguïté relationnelle, d'assignation identitaire. J'ai personnellement peu de doutes sur le fait que le milieu des expatriés ait des propensions à l'assignation identitaire authentique pour l'avoir observé au Mali, par exemple. Mais du coup, je n'ai pas vu le rapport entre les deux et non plus dans les extraits d'entretien. Donc, est-ce que vous pourriez revenir voilà, sur le passage de son système à des questions plus générales ?
Merci pour la question. Oui, effectivement, j'ai eu du mal à condenser ma communication. Qu'est-ce qui se passe dans les sound systems ? J'aurais du mal à généraliser, à répondre à la première question de ce qui s'y passe, parce que chaque sound system est différent. Et j'aurais du mal à répondre concrètement. Peut-être que je n'ai pas compris la première question. Mais concernant la deuxième question, comment je passe de ce qui se passe dans les soirées et ce que j'ai appelé les ambiguïtés relationnelles, c'est que j'avais l'impression que tout était cadré, codifié par des enjeux de relations racialisées, en fait. Et que du coup, il y avait une mise en scène d'eux-mêmes qui est... qui est la manière dont ils peuvent être là, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être là s'ils ne sont pas comme ça, en fait. C'est la manière dont j'avais perçu les choses. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Une autre question ?
Oui, bonjour. C'est pour Monsieur Guibert. En fait, j'ai entendu le terme afrocentrisme et du coup, j'aimerais bien être éclairée de ce que ce que ça signifie et ce que vous vouliez dire par là. Merci.
La revendication du collectif du Bout des Landes. En fait, eux, ils sont, intégralement en fait d'origine africaine et en fait ils revendiquaient un afrocentrisme dans le hip-hop par exemple, enfin si tu veux au niveau des collectifs en fait à Nantes ils se différenciaient d'autres collectifs et c'est vrai que c'était un moment la fin des années 90 où par exemple il n'y avait pas de enfin en tout cas j'en ai aucun dans toutes les mixtapes, il n'y avait pas par exemple de discours religieux ou enfin il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Et à Nantes, dans le hip-hop, mais en tout cas, le positionnement, en plus, c'était Malcolm, mais c'était son prénom, mais c'est Gros Bonhem Mashup, ça c'était son nom dans le collectif du Bout des Landes. Et lui, il était étudiant en histoire, je me rappelle, parce que moi j'ai participé au débat, par exemple, de l'énergie pop 2000, et il y avait Malcolm, et lui disait, nous on est afrocentristes, tu vois, c'est juste, c'est lui qui le... Moi, en tant que tel, je ne veux pas revenir sur est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il n'avait pas raison, etc. En tout cas, au sein de... Par exemple, eux, ils étaient le collectif du Bout des Landes. Et ils sont... Bon, il y a Philémon, peut-être vous connaissez, là, voilà, qui a les cheveux blonds et tout ça, qui se teint les cheveux en blond, mais qui dit que voilà... Bref, ils tirent sa force. Enfin, bref, ils ont toute une mythologie. Et forcément, c'est lié à des choses qui ne sont pas mes spécialités, mais c'est lié à tout un savoir... à la fois africain et afro-américain, qui conjugue en fait dans la manière dont ils définissent identitairement leur posture, quoi, si tu veux. Moi, c'était pas mon objet de travail, mais en tout cas, eux, c'était explicite pour eux, quoi, si tu vois. Et même au niveau du look, par exemple, ils étaient super voyants, ils avaient tout le temps des fringues avec des couleurs super criardes, et quand ils se baladaient dans le centre-ville. Je veux dire, on savait qu'ils étaient là, quoi, tu vois. C'était pas... Et même dans les débats, à chaque fois, ils prenaient le mic et ils le lâchaient plus. Enfin, c'était... Voilà, c'est un style... voilà, mais ils étaient aussi... Ils faisaient partie du bastion aussi, mais si tu veux, Ils avaient une couleur spécifique, quoi, le Bouddhéland.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, bonjour et merci de vos présentations. Très rapidement et pour faire simple, sur les trois terras, Nantes, le Burkina et le Sénégal, je voudrais savoir comment vous avez pu faire le relevé des perspectives justement des débuts du hip-hop par rapport à ce que vous avez présenté. J'ai moi eu un vécu au Burkina et au Sénégal, aussi bien qu'à Nantes. Donc un vécu d'enfant au Sénégal et au Burkina où j'ai vu le hip-hop comme ce que je l'ai vu en France par la télévision et par des magazines et des jeux. Et ensuite, par mon vécu de street marketing, au niveau nantais par exemple, je ne suis pas familier dans mon travail de street marketing à Vincil et autres, c'est venu par la suite. Mais au tout début, je me souviens qu'on faisait une séparation un peu ironique en disant qu'il y avait les rappeurs underground et les rappeurs underground, qui étaient vraiment ceux qui avaient du mal justement avec toutes les initiatives que vous avez décrites à émerger.
Et tu sais l'année à peu près, parce que...
C'est entre, franchement, je me souviens plus trop, mais c'est dans le milieu des années 90, quoi, entre 93 et 96 à peu près. Et au niveau du Sénégal, pareil, toujours une question de perspective. J'entends souvent justement des communications, des présentations, des conférences, des séminaires, pas mal de choses aussi bien académiques qu'artistiques, mais beaucoup plus, c'est le francophone qui est mis en avant, et très peu les arabophones et les anglophones. Et pareil, toujours dans le vécu. Au Sénégal, moi, j'avais l'impression souvent que c'était plus l'influence américaine qui était dominante que l'influence française au niveau du rap, par exemple. Et donc, j'ai souvenir de rappeurs, mais qui rappelaient avec un accent plus américanisé qu'un accent francisé. Et voilà, j'arrête là. Voilà, merci beaucoup.
Peut-être Jérôme ou Cécile.
Alors, sur l'influence américaine, il y a des auteurs comme Ben Harrison qui ont spécifiquement traité de cette question, par exemple. C'est vrai que l'influence américaine est beaucoup plus importante que l'influence française. Je vois la même chose. Et pour lui, ça se notait notamment au niveau de la linguistique. L'utilisation de termes américains au niveau du Wolof, leur intégration. Ensuite, juste pour sur les débuts du hip-hop, ça a beaucoup été documenté pour le Sénégal. Et moi, ce que j'ai en 2014, quand je commence mon terrain, c'est toutes les mythologies, tous les récits qui sont faits sur cette histoire. Donc voilà, à partir de quel, c'est aussi un matériau à partir duquel évoluer, non pas l'histoire en elle-même maintenant, mais aussi toutes les mythologies qui sont construites autour. Voilà. Merci.
Je suis un peu frustré parce que j'aurais plein de choses à dire, mais juste pour, par rapport à ce que tu dis. En fait, j'ai eu une réflexion que j'avais pas eue quand j'ai préparé mon exposé, quand j'ai vu que je me retrouvais dans un atelier pris en sandwich entre deux coms sur l'Afrique. Et du coup, je me suis dit, est-ce que si on pose des questions sur l'Afrique et tout ça à Nantes, qu'est-ce que je pourrais dire et tout ça ? Et en fin de compte, c'est vrai que j'avais une discussion avec une amie, Isabelle Kaufmann, qui avait fait sa thèse... Vous connaissez peut-être sur la danse hip-hop. Et en fait, elle me disait, non, mais de toute façon, les rappeurs ou les DJ, en fait, ils sont nulle part. Tu ne peux pas savoir d'où ils sont. C'était une discussion par rapport, vous savez, à cette revendication du quartier, qu'on peut, voilà, qu'on remonte à la classe ouvrière, enfin, Richard Rogart, machin. Enfin, tout ça, enfin, toute cette tradition-là. Et puis aussi, bah, tout ce qu'on voit de manière scalaire. Là, par exemple, hip-hop de l'Ouest, par exemple, sur les disques, c'est tout le temps marqué, par exemple, « Made in L.A. » pour Loire-Atlantique, Darwin West, ils ont toute cette rhétorique. Donc effectivement, ils revendiquent le 44, par exemple, s'ils sont nantais, ou la Loire-Atlantique et tout ça. Mais en même temps, c'est vrai que quasiment tout le monde, comme ils ont des origines extra-métropolitaines, on pourrait dire,
Eh ben, ça arrive. À un moment, ça arrive en fait aussi dans les argumentaires. Ça qui est intéressant, c'est que même par exemple sur Tragédie, sur Madagascar, ou après ben justement que Tizi il est retourné là-bas, ou que ben par exemple Général Hannibal il est du Congo. Donc en fin de compte, il y a ça qui apparaît aussi. En fait, dans les interviews, il y a le côté nation hip-hop d'une certaine manière, même si ça a décliné après. Enfin, plutôt à la fin par rapport au début, enfin de mon enquête. Et il y a le côté 44, Nantes, Ouest, mais il y a aussi le côté de la provenance individuelle des personnes, ou Kamnouz, la Guadeloupe et tout ça. Enfin, il y a ça qui revient aussi, ou Calvin Scott, je crois qu'il est du Sénégal d'ailleurs, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça me fait penser vraiment à ça. Et puis aussi. Pour rebondir, j'ai pas répondu sur par exemple l'afrocentrisme, mais justement je pense à une autre chose, c'est que par exemple SAT, le syndicat actuel de la Tchatche du bout des Landes, en fait ils ont fait un retour en 2005, je sais pas si vous avez suivi ça, avec il y avait Dajla au cœur et tout ça, et ils ont sorti un maxi, et en fait c'était toujours SAT, mais en fait ça s'appelait Sumerian Atlantic Tribe. Et donc, en fait, ils jouaient à la fois sur le côté ouest et en même temps sur le côté, peuple, toute la mythologie, afro-américaine. Et ça, je trouve que c'est assez typique d'une manière d'essayer de retravailler comment ils se positionnent, en même temps dire qu'ils sont du hip-hop de l'ouest, mais en même temps dire que, voilà, ils ont, enfin, la France, ils la voient. Ils la voient d'une certaine manière, sauf que Sumerian Atlantic Tribe, c'était avec un groupe des Icos. Et ben pourquoi ? Parce que du coup, comme Hocus Pocus avait percé, et ben du coup les Nantais, c'est comme si c'était le son nantais en fait, c'est avec un groupe. Alors du coup, il y a eu Carré Magique, Philémon, il a joué avec un groupe avec Smooth, qui est un groupe de trip hop. SAT, ils ont pris des Icos aussi quand ils sont appelés. Donc ça, c'était l'effet performatif du. On est de l'Ouest, donc du coup, en fait, si on veut percer, il faut qu'on soit avec un groupe. Bon, évidemment, après, on pourrait dire qu'il y avait Eric Truffaz, on pourrait dire qu'ils ont vu The Roots à l'Olympique en 97 et qu'ils se sont tous pris une claque. Enfin, bon, il y a aussi une structure.
Concernant juste le recueil des données sur l'histoire du rap, moi j'avais très peu de choses parce qu'il y a très peu de choses qui ont été écrites là-dessus. J'avais quelques livres qui ont été écrits par des Burkinabés sur l'histoire de la musique au Burkina. Et après, c'est des recueils dans des entretiens en fait, avec plein d'acteurs culturels, des rappeurs, etc. Voilà.
Ouais. Pardon, j'ai pas répondu là-dessus, mais moi j'ai fait une série d'entretiens en 98-99, mais qui était axée économie. Par exemple, avec le futur manager de Vinci, qui était c'est Dilem, mais à l'époque, il s'occupait d'un autre groupe qui s'appelait Le Réseau, qui était dans le Bastion. Donc, j'ai fait une série d'entretiens à l'époque. Et là, j'ai refait une série d'entretiens. Et notamment, je suis allé voir Vinci, en fait, en lui posant des questions super précises. Et puis aussi les gens du festival Energy Pop. Et puis à côté, j'avais tout un stock de trucs que je n'avais pas exploité, notamment les fanzines, toute la presse underground, en fait.
Bien, merci.
Peace. Am I right? Thank you, guys. Est-ce que c'est correct si je demandais une question en anglais? You guys understand? Okay. This is mostly, I think, for Cécile, but I heard a little bit of it in as much as I understood. I'm sorry. In each of the papers, this idea of something from nothing, it's part of the hip-hop mythology. It's become kind of a romantic notion, certainly in hip-hop, but I'm just wondering if you could maybe think about it, problematize it, because on the one hand, it is a mythology, and it romanticizes and maybe even essentializes notions of the ghetto and black or hip-hop creativity. There's always something, right? It's not something from nothing, it's something from a particular kind of something. And to say from nothing means to evacuate nurture and love, and even the minimal resources that are available, right? So. But when rappers and hip-hoppers say it, we usually just let it pass because we know what they mean. So I'm just wondering if you could problematize that notion, something from nothing, and push back a little bit.
Peut-être juste traduire vite fait pour tout le monde.
La question porte sur la mythologie dans le hip-hop sur partir de rien, something from nothing, et si les présentateurs pouvaient nous problématiser cette notion, parce que dans le rap, on sait ce que ça veut dire, les gens passent là-dessus, ça veut dire le ghetto, mais on ne parle pas de ce qui nourrit tout ça, les sentiments ou les ressources matérielles. Et est-ce que vous avez des éléments sur vos cas pratiques pour aller plus loin que ce something from nothing?
Well, actually, I think you're totally right about this notion about there is nothing at the beginning. And for me, it was kind of, when he was talking, I was thinking also, he evacuates the how he produced music in Senegal at his beginnings, and all this, the meaning of the neighborhood where he was living is like he was very distancing himself from. He didn't really talk to me about where he came from. He just said, "I came from this." It was more emphasizing where he was at the moment. So, well. You're right about the importance of problematizing it, and it's a work that it still has to be done for this artist. But I just wanted to emphasize here the echo about what he could say about his migrant experience without going any further. But you're totally right.
En français. Merci. Moi, je dirais plus que la référence au ghetto, elle est très utilisée, etc. Mais moi, je l'aperçois plus comme un référentiel globalisé, mais qui est inscrit dans des luttes de pouvoir. En fait, c'est pas juste partir de rien, c'est en comparaison à d'autres, en fait. Donc, je le vois plus comme un site de pouvoir, un référentiel dans lequel on met plein de choses différentes en fonction des contextes, etc. Mais qui est utilisé comme une notion référence, en fait. Voilà.
Excuse-moi, Jérôme, mais on va peut-être juste prendre le temps de prendre une petite question de plus. Et comme il faut qu'on arrête bientôt, je passe la parole à...
Bonjour à tous. Si vous permettez, moi, je veux bien faire un constat personnel. Après, je poserai ma question qui en découle. En fait, pour moi, aucun mouvement, aucun rappeur, ni d'ailleurs aucun jazzman, ni aucun bluesman, ne se développera jamais s'il ne prend pas en compte sa réalité culturelle. Et je crois que c'est le cas pour beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes ont tendance à vouloir escamoter cette réalité. Et alors, la seule façon qui permettrait effectivement que ce genre ou cette musique se développe, c'est qu'on s'approprie effectivement cette culture de l'autre en se déplaçant chez l'autre. Voilà pourquoi je pense que Anna parlait de rappeurs qui ont dû émigrer. Parce que je prends le simple cas, quelqu'un a parlé de Booba tout à l'heure. Booba a pris en compte sa réalité culturelle, quoi qu'on dise. Booba a été un des premiers rappeurs qui a eu l'idée, si on peut dire ainsi, ou l'instinct de rapper comme il parlait, comme on parlait en banlieue, d'utiliser un langage plus ou moins codé. Je crois qu'il y avait X-Men aussi qui avait commencé à faire ça. Mais ça, pour moi, c'est l'empreinte culturelle dans le milieu dans lequel on vit, qui permet effectivement de faire bouger, de faire évoluer sa musique, etc., etc. Voilà, donc moi, ce que je voulais dire, et je crois comprendre ce que Anna disait par rapport à la complexité des identités, ou je ne sais plus de quoi tu parlais, et je crois que c'est lié aussi au fait, effectivement, à une certaine forme de paradoxe. Comment peut-on en même temps vouloir une certaine indépendance, un certain label, une étiquette indépendante de « je me suis fait tout seul, je viens de rien du tout, je suis parti de rien, je suis arrivé à tout », et puis en même temps devoir d'une certaine façon côtoyer ceux-là même qu'on est censé, enfin, la symbolique de l'oppression. Voilà, donc c'est vrai que c'est un paradoxe qui est partagé pas simplement dans pas seulement dans le hip-hop, mais aussi dans le reggae. Je rappelle qu'il y a beaucoup de Rastaman qui chantent dans le reggae et qui tournent à 90% dans les pays européens, voilà, etc., etc., qui ont des managers, des tours opérateurs européens, etc., etc. Bon, moi, ma question, c'est peut-on effectivement développer un mouvement, même si ce n'a peut-être pas grand-chose à voir en définitive avec ce que vous avez exposé ici, peut-on développer un mouvement, peut-on développer une musique ou une carrière en faisant abstraction de sa réalité culturelle et sociale?
Si je peux juste dire, c'est que répondre, vite fait, je ne sais pas, Karim, je peux dire un truc?
Vite fait, et puis ouais, peut-être laisser la parole après à ta voisine, puisqu'elle a été... peut-être juste pour présenter, c'est Smokey qui est un rappeur... tu peux dire deux mots, hein, Jérôme, c'est juste... voilà.
Oui, non, mais c'est parce que... ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en 97, il y avait eu un débat, la première convention à Nantes, et c'était Hugues Bazin qui modérait, mais c'était parti un peu en vrille et tout, et c'était intéressant, mais en tout cas, je veux dire, la question, elle était centrale, c'était un peu comme... Elle était posée comme ça par Yasmine, par exemple, de HB2. Et quand on regarde, en fait, comment Hocus Pocus a percé, en fait, à la fin, on voit que, par exemple, Vinci, il a fait un truc, c'est qu'au lieu de se poser ces questions-là, il est parti sur des trucs super en périphérie, par exemple, sur la technicité du scratching et tout ça, mais qui faisait quand même partie du truc, mais qui était super en périphérie. Ou alors, un autre truc, c'est que, par exemple, c'était un skater. Et en fait, il était dans le collectif des skateurs, et du coup, il y avait, par exemple, Bilou ou Guillaume, le gars de Matza, qui était aussi dans le skate. Et en fait, mais pourtant, c'était dans le hip-hop, mais c'était des choses... En fait, il s'est investi à fond sur des trucs qui étaient super en marge de la culture par rapport aux autres, enfin, par rapport à la plupart, où eux, ils cherchaient à se poser des questions de base sur... C'est quoi l'essence de la culture hip-hop, soit pour s'opposer ou soit pour être dedans, hein. Soit, par exemple, sur Skyrock, il y a vraiment les pour et les contre.
Tu voulais que je présente Smokey, c'est ça?
Non, c'est juste pour si tu voulais répondre, rebondir. Non,
oui, bah, merci beaucoup pour ta contribution, parce que je parle un peu sous ton contrôle quand même. Merci. La question que tu poses, nous en tant que chercheurs, enfin j'ai envie de dire, nous on est là pour étudier les réalités, donc on décrit. Après, est-ce qu'on peut créer un mouvement sans partir de ces réalités? Moi je pense pas personnellement, mais à la limite on n'est même pas là nous pour répondre à ça en fait. C'est-à-dire que nous on fait qu'observer et décrire comment nous on observe les choses à travers nos yeux de chercheurs, quoi. Mais moi, je ne peux pas répondre à ta question, qui est plus une question d'activiste que de... Tu vois.
La question n'est pas adressée aux chercheurs. Je n'ai pas adressé la question aux chercheurs, j'ai adressé la question aux personnes que vous êtes, personnes morales que vous êtes. Voilà. Et c'est votre réponse de but en blanc qui m'intéresse. Ah, naturelle, sincère, clairvoyante.
Voilà. Après.
Ça permettra peut-être de trouver quelque chose.
Oui.
Vous nous aidez à chercher, mais à la fin, il faut que nous, on puisse trouver.
Oui, c'est pas faux. Merci.
Bon mot de la fin.
Cécile, un mot, peut-être?
Bon, ma position personnelle, ce serait de dire, comme Anna, oui, je pense bien sûr qu'il faut bien que ça réside sur quelque chose de concret, qui est vécu, etc. On ne parle jamais de rien, comme disait Monsieur Forman. Après, en tant que chercheuse, moi, je vais plutôt me poser qu'est-ce qu'un artiste avec un vécu migratoire va dire de son local tel qu'il l'imagine aujourd'hui, et puis de son local d'origine et de son local là où il réside actuellement. Donc voilà, là, il va être dans un double local qui va être en partie construit, en partie imaginé et en partie vrai quelque part. Voilà.
Merci. Alors, il est peut-être temps maintenant de conclure cette session, de vous remercier pour vos questions et de remercier également nos trois intervenants. On peut applaudir à nouveau. Applaudissements.